Bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus à cette rencontre autour donc du catalogue de l'exposition qui se tient depuis hier au FRAC Aquitaine. Donc, vous avez le catalogue devant vous, hein, Folk Art Africain, création contemporaine d'Afrique subsaharienne. Donc, nous sommes ici quelques-uns, ils sont plutôt quelques artisans de ce catalogue et évidemment de cette exposition. Et en premier lieu, bien sûr, les artistes, Omar Victor Diop, complètement à ma gauche, et puis à côté, donc, Amadou Sanogo. Je vais de toute façon les laisser se présenter. Et deux des artisans du catalogue, Florent Mazzoleni, et Claire Jacquet, donc, qui est commissaire de l'exposition et directrice du FRAC Aquitaine.
Deux parmi d'autres.
Oui, voilà, deux parmi d'autres, donc, qu'on va du coup présenter et qui seront représentés, dont on reparlera plus tard. Donc, on contribue également à ce catalogue, à cet ouvrage André Magnin, voilà, qui est, j'allais dire qu'on ne présente plus, mais qu'on présentera quand même, qui est... également qui a été commissaire de grandes expositions d'art contemporain, dont la plus récente se tient actuellement à Paris, à la Fondation Cartier, Beauté Congo, Congo Kitoko, et qui a donc contribué à de nombreux égards à ce travail, à la fois au catalogue et à l'exposition. Enfin, j'ai oublié de présenter le chien.
Ouais.
Le chien. voilà, donc... Eh bien, écoutez, peut-être que je vais commencer par demander aux artistes de se présenter, tout simplement. Voilà, dire qui ils sont et présenter en quelques mots leur travail. Et peut-être que ça ouvrira déjà un peu la présentation de cet ouvrage, ce catalogue.
Bonsoir. Ici Amadou Sanogo, peintre malien.
Omar Victor Diop, photographe sénégalais. Bonsoir.
Merci. Alors peut-être, est-ce que je peux demander à Florent Mazzoleni s'il veut se prêter aussi à l'exercice, d'abord pour lui-même et puis également pour les artistes, puisqu'il les connaît bien, puisqu'il a en effet participé au catalogue et il a notamment réalisé les entretiens avec les artistes. Donc voilà, il connaît leur œuvre et il les connaît. Il aura sans doute un autre, peut-être une présentation un tout petit peu plus longue que celle que les artistes ont fait d'eux-mêmes.
Oui, donc pour présenter Omar et Amadou, en deux mots, c'est ces deux artistes, donc l'un photographe, l'autre peintre, font partie de la génération montante d'artistes, alors c'est même pas d'artistes africains, mais d'artistes tout court, qui font en sorte de donner une vision totalement différente d'un continent qu'on connaît mal, somme toute, ici, qui est sujet à bien des débats. On l'a vu hier lors du colloque. Alors, en deux mots, pour présenter Omar Victor, son parcours en l'espace de quelques années a été assez fulgurant. Il a été découvert aux rencontres de Bamako. Et puis, très rapidement, il a exposé dans de nombreuses manifestations, tant en France qu'à l'étranger. Et son travail, récemment, il était aux rencontres d'Arles. C'est Claire Jacquet qui avait introduit son travail. Mais surtout, par la force de ces séries, ce n'est pas des dizaines d'images, ce n'est pas des milliers d'images. C'est des choses très cohérentes, très structurées. La série... Bûcher des vanités, le studio des vanités et la série Diaspora avaient une cohérence qui, de mémoire récente, enfin en matière de photographie africaine, en tous les cas, ou une photographie tout court, n'avait pas été exprimée. Mais la force de son travail, il faut noter qu'Omar Victor met en scène, réalise, conceptualise, s'occupe des décors, s'occupe vraiment du moindre détail dans ses photos. Le détail final, somme toute, le fait d'appuyer sur le déclencheur s'avère presque secondaire par rapport à toute la mise en scène et toute l'attention qui est consacrée à ces images. C'est affirmé comme l'un des grands portraitistes modernes, voilà. Au même titre que pouvait l'être Herb Reeves, au même titre que pouvait l'être Seydou Keïta ou Mama Kassé dans d'autres générations. Donc je pense que c'est un grand nom de la photographie à l'heure actuelle. Et Amadou Sanogo, en deux mots, je le connais aussi assez bien. On s'était croisé au Mali à plusieurs reprises, et puis ici à Bordeaux, une ville qu'il aime bien. Au même titre qu'Omar, Amadou fait partie de cette génération d'artistes à la fois iconoclastes, qui défient les frontières ou en tous les cas les registres dans lesquels on voudrait bien les cantonner, au gré d'une peinture libre, affranchie de toute contrainte, avec des supports et des choses très, comment dire, des intentions très fortes dans ces tableaux. Amadou peint par série, parfois il passe plusieurs semaines à ne rien peindre, et lorsque l'inspiration vient, enfin tu me diras si je me trompe, mais tu te lances dans des tableaux qui suscitent beaucoup de questions. En tous les cas, la vitalité de ton travail a été remarquée par certains, et aujourd'hui tu fais partie de cette génération ascendante de jeunes d'artistes africains ou d'artistes tout court qui ont élevé la peinture au sommet d'un véritable manifeste. Voilà, je pense que tu nous en diras plus sur tes intentions, mais ces deux artistes sont les grands noms de demain, en tous les cas en matière d'art contemporain. Après, je ne sais pas ce que tu... Claire, si... Comment tu les... Parce que c'est vrai que c'est très succinct de dire ouais. Photographe sénégalais et peintre malien, mais je pense que après tout, nous on fait que juste, enfin, on est cornemental dans tout cela, on ne fait juste que raconter ouais. des bêtises là-dessus. Je pense que c'est les artistes eux-mêmes qui doivent parler.
Enfin, je pense que vous êtes beaucoup plus que des passeurs. Vous êtes, commissaire, et c'est là une lourde responsabilité, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'accrocher des œuvres. Il y a toute une cohérence à apporter. Vous l'avez fait de main de maître. Hein. C'est l'occasion pour moi, en tout cas, de vous féliciter, parce que c'est une très belle exposition qui est accrochée actuellement et un très bel événement qui a été monté. La preuve, on a eu beaucoup plus de monde qu'on s'imaginait. Donc c'est le moment de vous féliciter, vous et vos partenaires, pour cette réussite. Je trouve que la présentation que Florent a faite de moi et me flatte énormément, et je me retrouve dans ces mots, dans le sens que effectivement, dans chacune de ces photographies, il y a une vraie construction. Enfin, il y a une construction d'un univers qui n'est pas seulement le mien, mais en tout cas dans le cas du portrait, qui est aussi l'univers du sujet. C'est-à-dire qu'il y a toute une maïeutique, toute une conversation qui a lieu avant et pendant la composition de chacun des portraits. Une vraie conversation qui me permet, moi, de savoir ce que la personne a envie de montrer, ce que la personne croit être une des facettes les plus importantes de sa personnalité. Et justement, le choix du textile, les choix vestimentaires, la composition du portrait d'une manière générale, avec les accessoires et le décor, tout ça crée une conversation qui finalement définit un thème général qui est le thème que la personne aura choisi pour être montrée, quoi. Et dans d'autres séries, c'est-à-dire que même quand il s'agit de séries d'autoportraits où c'est moi qui me mets en scène, le travail est le même. Il y a un besoin d'écrire une sorte de synopsis, une sorte de monologue qui servira de scénario pour justement réaliser cette image. Alors, même quand il y a une œuvre qui sert d'inspiration, une peinture classique ou une gravure ou une statue, n'empêche, il y a quand même un travail de rédaction, quoi, qui a lieu avant le simple fait de faire un arrêt sur image, enfin de faire une image, quoi. Donc en gros, c'est ce que je peux dire à propos de mon processus de création, quoi.
Si je peux intervenir, ce que tu dis m'intéresse beaucoup parce que dans la mesure où effectivement cette exposition prend comme point de départ la notion de folk, donc convoque peut-être l'idée de ces substrats voilà, qui font partie de la culture africaine dans son histoire la plus ancienne ou la plus récente d'ailleurs, et que l'exemple de Omar Victor Diop, on est à la fois dans une histoire qui renvoie à des choses qu'on connaît du passé, et puis très vite on est dans ce présent hyper contemporain, et ce va-et-vient entre ces images anciennes et ces images peut-être plus de magazines, elles sont très très troublantes. C'est-à-dire que hier, par exemple, j'ai entendu quelqu'un dans l'exposition qui m'a fait remarquer que un des portraits ressemblait beaucoup au portrait de Bertin, le rédacteur en chef d'un journal qui avait été peint par Ingres. Et il me faisait remarquer combien finalement ta photographie avait ce côté très fini, très classique, très précis de la peinture d'Ingres. Voilà, ce que je trouvais assez drôle quand même. Et puis, très vite, c'est vrai que je me suis aussi... le portrait d'Aminata, tu le rattaches d'une certaine manière à un portrait comme celui de la Joconde. Et dans ta série Diaspora, tu as pareillement retrouvé d'anciens portraits tout en les travaillant et en les intégrant, mais en les dépassant aussi. Donc voilà, c'est tout ce travail de télescopage ou de mixage, ou je ne sais pas comment, de quelle manière tu pourrais... quel est le meilleur mot finalement? Parce que lors du colloque hier, on a parlé de métissage et puis on s'est dit qu'il fallait aussi parler de créolisation. Donc bon, bref. Mais voilà, il y a dans le travail de Victor Diop ce rapport au temps qui est tout à fait intéressant parce que tous les temps fusionnent. Et pour revenir peut-être au texte de Florent Mazzolini dans le catalogue, Florent parle de temps élastique, où le temps passé, présent, futur fusionne dans l'image. Voilà.
Et est-ce que peut-être, Amadou, tu pourrais nous dire aussi quelque chose de ces temps qui fusionnent ou de ce rapport entre quelque chose qui viendrait du passé et qui, pour toi, ne fait pas... Pour toi, il n'est pas question de le rattacher uniquement au passé, mais c'est quelque chose de très actuel. On a parlé un petit peu hier aussi de tes sources d'inspiration. Je ne sais pas comment est-ce que tu... Comment ça intervient dans ton processus de création?
Bon, en fait, dans mes interventions, j'essaie de privilégier beaucoup le présent. Parce que je trouve que d'après le classement du temps, il y a le passé, le présent et le futur. Pour moi, le passé est flou, l'avenir est incertain, sauf le présent est concret. Avec un bon présent, l'avenir est garanti. Et le présent, je me pose la question, quand ça va finir? C'est dans cette logique de questionnement encore qui me revient, qui m'aide beaucoup à faire mes recherches. À chaque fois, je me pose des questions. Et mes questions, j'essaie de transcrire sur un espace donné qui est au moins... Après, qui me donne un résultat, souvent, c'est un combat entre moi et l'espace. Et souvent, l'espace gagne sur moi et souvent, je parviens à dominer. Mais la plupart des cas, les œuvres qui me résistent, c'est les œuvres qui sont très convoitées. Mais mes sources d'inspiration sont plus ou moins... J'observe le monde qui m'entoure. Et j'essaie de mettre mes observations, de transformer mes observations en des questionnements. Et je me pose d'abord, après je mets au service du public. Donc je suis dans cette logique de questionnement. Ce qui fait que souvent mes œuvres... J'ai du mal souvent à me situer à certaines de mes œuvres parce que mes questionnements... J'attends jamais un résultat. Chaque fois qu'il y a une réponse, ça suscite une autre question pour moi. Et la façon de traiter mes personnages, quoi, j'ai beaucoup appris avec les enfants. Il a fallu que je fasse une rupture avec mon propre monde, qui est au moins l'académisme, après l'école des beaux-arts. d'aller travailler avec les enfants, voir comment les enfants, parce qu'ils ont une certaine sincérité à présenter les choses que les adultes, on n'a pas. On essaie de se battre pour présenter certaines choses autrement. On veut toujours faire plaire aux autres. Les enfants sont dans une logique de se satisfaire d'abord. J'ai essayé d'aller visiter ce monde. C'est ça qui m'a beaucoup appris, vraiment, à caricaturer mes personnages comme ça. Ce qui fait que je ne donne jamais les personnages comme les gens sont, comme les gens veulent. Je donne les personnages comme je sens. Donc, mes personnages sont comme ça. Et les couleurs et les traitements, c'est un plaisir pour moi chaque fois de détourner les objets. Je ne travaille jamais le pinceau comme les gens veulent que je travaille, comme on a appris à l'école. Non, j'essaie chaque fois de contourner au moins ça. Détourner les objets pour avoir un autre résultat. Souvent, ça réussit, souvent, ça ne réussit pas. Mais l'objectif pour moi, ce n'est pas que ça réussit. Même si ça ne réussit pas, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas réussi et comment faire pour que ça puisse réussir? Ça m'aide beaucoup à évoluer ici dans cet processus. Comme Florent a dit souvent, je m'arrive à traiter des thèmes de série. Par exemple, lors des coups d'État chez nous et ce qu'on a vécu, plus ou moins c'est la transition et l'élection, c'était une succession d'événements. Donc, tout artiste qui réfléchit beaucoup est interpellé. J'étais toujours en conflit avec les gens. Ils disent qu'on condamne, on condamne. J'ai dit, c'est très facile de condamner. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu ça? Vous devrez vous poser cette question. Tant que vous ne vous posez pas des questions comme ça, vous n'allez jamais vous en sortir. Ils trouvent que je suis un peu radical, mais c'est ma façon de voir les choses, mais on évolue. Parce que je me mets toujours dans des questionnements. Et là, même actuellement, j'ai des œuvres dont on parle. Il y a beaucoup de clivages entre le pouvoir et l'homme et le pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est un truc virtuel, mais une fois que l'homme... moi, je vois le pouvoir comme un boubou virtuel. Une forme de boubou virtuel, une fois que l'homme rentre dedans, il devient une autre personne qui n'est pas propre à lui. Ce qui fait qu'on dit que le pouvoir n'a pas d'amis, mais a des collaborateurs. Donc, moi, souvent, je fais au moins ça. Je me pose des questions, je retourne après, je pose d'autres questions. Je suis dans cette logique.
Mais là, ce qui est intéressant aussi, c'est que au-delà des questions, ou peut-être en accompagnement de ces questions, ce qui ressort de votre discours, comme celui d'Omar Victor Diop, hein, je crois que c'est entre autres ce qui fait que peut-être vos œuvres convergent, c'est la notion de plaisir, je crois. Je crois que c'est assez clair aussi dans ce que vous dites, le plaisir qu'on a à... Vous l'exprimez, je crois, dans le catalogue aussi, hein, et vous l'avez dit dans la discussion avec ces personnes qui posent pour vous le plaisir qu'elles ont à se mettre en scène et que vous avez aussi à les mettre en scène. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui se voit à travers vos œuvres. Je voulais peut-être, justement, puisque j'essaie ça vient de soi, ces ponts ou ces convergences, parler aussi peut-être de votre relation à tous les deux et éventuellement à celle des autres artistes. Hier, un troisième artiste exposé au cours de l'exposition était également à Bordeaux, Romuald Azoumé. Simplement, je ne sais pas, peut-être que le public aussi se demande comment vous vous connaissez, est-ce que vous vous fréquentez. On a parlé d'intermédiaires, Claire Jacquet, Florent Mazzolini disent qu'ils sont des passeurs ou des intermédiaires. Est-ce que vous vous êtes rencontrés par des passeurs de ce type dans des galeries? Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter l'histoire de votre rencontre? Parce que c'est une rencontre.
J'ai rencontré Amadou il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 36 heures, place... c'était quoi la place? Place des Chartrons. Mais j'ai eu la chance de rencontrer son travail bien avant, parce qu'on est représenté par la même galerie, André Magnin. Les événements où j'ai eu la chance d'être... de pouvoir visiter les expos, j'ai tout de suite, comme on dit en langage courant, flashé sur son travail et je trouve même que c'est bien de connaître les œuvres avant de connaître l'artiste, quoi. Et donc maintenant on se connaît.
Ouais, effectivement. Non, au fait, ça fait bientôt un an comme ça que j'ai vu au moins ça, une photographie de Omar Victor Diop à la galerie chez Magnan. C'était face à l'œuvre, j'ai beaucoup apprécié. J'ai posé la question à Magnan, qui est cette photographie ? Il dit que c'est un Sénégalais. Un artiste sénégalais. Voilà. Ouais, bon. Pour moi, c'était comme ça. J'ai dit, ah bon. J'ai dit, il dit oui, c'est un jeune comme toi. J'ai dit, chapeau. Là, honnêtement, parce que même hier, il a fallu que j'amène pour lui montrer l'œuvre qui m'a beaucoup fasciné. À Bamako, ça fait bientôt 4 rencontres de la photographie, que je suis toujours au cœur de la photographie, de cette rencontre. J'organise souvent des activités pour accompagner les biennales des rencontres photographiques. Et maintenant, je commence à fédérer les artistes autour de moi, les artistes maliens, parce qu'on était trop dispersés et trop au service, au moins, c'est des promoteurs d'art qui mettent en avant leurs propres intérêts et non de promouvoir les artistes. Donc, et les gens que je suis en train de fédérer autour de moi, il y a des photographes qui participent au biennale, qui sont même sélectionnés lors des rencontres à venir. Ils sont autour de moi. Donc, je ne suis pas photographe, je ne cherche pas à être photographe, parce que si jamais je m'engage, je risque de me perdre. Dieu merci, je préfère rester dans le monde de la peinture, parce que c'est le seul monde dont je me sens libre d'exprimer comme je veux. Il y a un adage qui dit qu'à force de tout faire, si tu ne fais pas attention, tu ne vas rien faire. Donc, pour préserver au moins, c'est vraiment l'épée. Parce que la peinture, c'est quelque chose que j'ai cru depuis 1997. Même mes profs ne m'ont pas cru jusqu'à ce qu'on me traitait de quelqu'un qui fait de l'art contemporain. J'étais au moins à chaque fois à l'école, c'était quelqu'un de. Il faut le mettre à côté chaque fois. Mais actuellement, ces mêmes profs viennent chez moi pour me solliciter au moins de conseiller certains élèves, d'aider certains élèves à se situer, soit au moins c'est des matériaux. Bon, c'est comme ça. Mais je ne veux pas. Ce que je déteste, c'est ce qu'ils me demandent. Ils me demandent d'aller souvent intervenir à l'école. Je ne peux pas parce que là, il va y avoir le conflit de double caractère. Ceux qui sont pour l'académisme et ceux qui sont pour la créativité. Moi, je suis pour la créativité et ils sont pour l'académisme. Je pense que s'il s'agit de représenter les personnages comme il faut, les photographes savent mieux faire que moi, que les dessinateurs. Donc, il y a cette petite.
Et en ce qui concerne l'œuvre des autres artistes qui sont exposés, vous les aviez aussi rencontrés ? Vous avez aussi commencé par rencontrer leur œuvre avant de rencontrer les artistes, par exemple, dans d'autres galeries ou des biennales ?
Oui, en ce qui me concerne, il y en a que je n'ai toujours pas rencontrés, mais dont je connais beaucoup le travail. Bon, il faut savoir que ça ne fait pas très longtemps que. Je suis dans la chose artistique et je suis dans ma cinquième année maintenant et donc, j'ai pas eu la chance de rencontrer physiquement tous les artistes, quoi.
Amadou,
moi je viens juste de rencontrer Romuald Azoumé. Ça a été un plaisir pour moi parce qu'à un moment donné, j'ai fait une installation sur le bidon à Bamako. Mais c'était au moins de détourner les objets. Là, j'ai essayé d'ouvrir et les gens qui n'ont rien compris de ma philosophie m'ont traité que je suis en train de faire du plagiat de Azoumé.
Je connais ça.
Voilà. Donc, les étudiants de Caen, ils sont très forts. Soit ils te disent que tu travailles comme tel, tu ressembles à un tel.
En France aussi. Hein.
Ouais.
Et alors, pour poursuivre peut-être sur les rencontres, Florent Mazzolini, est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi, nous raconter un peu comment vous avez rencontré certains des artistes, peut-être même en dehors du cadre du catalogue, comment vous avez été amené à, je pense par exemple à Blaye Tiosan, hein, qui est exposé, dont l'œuvre est également exposée au FRAC.
Blaye Tiosane, effectivement, qui est ce peintre sénégalais, qui était le peintre officiel de Senghor à la grande époque, enfin au début des années 60, qui a exposé au premier festival mondial des arts nègres en 66, et qui a composé l'hymne de ce festival, qu'Omar doit connaître, le fameux Talen Lampi, qui était un morceau qui passe encore sur l'ORTS, sur Radio Sénégal. J'ai rencontré en 2009, parce qu'un ami producteur, Ibrahim Assila, qui était un grand producteur de musique africaine, avait décidé d'enfin l'enregistrer. Il avait 75 ans ou 73 ans à Blaye à cette époque. Il n'avait jamais fait de disque de sa vie. Il avait juste gravé quelques morceaux à la radio, mais il n'a jamais publié de disque en tant que tel. Il m'avait demandé de le photographier pour illustrer un peu la pochette de ce disque. Et c'est en parlant avec... puis bon, je vais faire les textes aussi qui étaient à l'intérieur. Et c'est en parlant avec Blaye qui m'a... Il m'a dit qu'il était peintre à l'époque, mais donc un peu curieux, j'ai commencé à regarder ses tableaux et surtout il m'a dit « Ah voilà, là j'ai ses dessins pendant des décennies, enfin pendant des années j'ai fait ses affiches. » Et puis ça prenait la poussière dans son... Il avait un bureau à Thiès. Il a dit « Je fais rien de ça, je ne sais pas quoi en faire, est-ce que je vais les jeter ?» Je sais pas ce que... J'en ai déjà jeté un certain nombre. C'est-à-dire que pendant des décennies, il a imaginé, il a reproduit, il a inventé, il a fantasmé, il a créé des films qui existaient hein, pour la plupart. Ça va des films d'art et d'essai à des choses extrêmement commerciales, des séries Z, des films des cow-boys, des films indiens, des films arabes. Il y a tout un pan du cinéma mondial qui est représenté dans les centaines de dessins qu'il a pu peindre, pastel, gouache, aquarelle, feutre, des techniques très diverses avec du matériel de récupération, un peu comme les premières toiles d'Amadou par exemple. C'était des choses qui étaient glanées, des bouts de carton, des papiers, des publicités retournées. Il me semble qu'il y a beaucoup d'artistes africains qui ont travaillé sur des matières brutes comme ça et non propres, achetées à la papeterie locale. Enfin, déjà, il n'y a pas de papeterie. C'est ça qu'il faut savoir. Et donc, on contourne ces biais-là. Et Blaye Tiosane a livré cette œuvre que j'ai pu... que je représente là depuis quelques temps. Et c'est vraiment un plaisir de la montrer à la fois au FRAC Aquitaine et puis au public qui viendra voir ces dessins qui sont tout à fait étonnants. Et là, on est dans cette idée d'un... d'un peintre un peu oublié qui avait délaissé sa carrière et qui m'a avoué tout benoîtement en 66, les choses auraient pu bien marcher pour moi. Mais malheureusement, depuis 50 ans, il a pris une voie de traverse, un chemin oublié, et puis il était resté un peu dans l'ombre. Et même chose pour Souris Enlée, qui est ce grand photographe, grand à mon sens en tous les cas, de Bobo-Dioulasso, une ville enclavée du Burkina Faso, qui opère ni plus ni moins en même temps que Malick Sidy Bé. Il a même commencé un peu plus tôt que Malick Sidy Bé, un peu plus tard que Sédou Keïta et que Mama Kassé, mais qui pendant des années, de manière commerciale, avait son studio photo, mais a laissé libre part à sa créativité en faisant des mises en scène. Et ce que peu de gens savent, mais c'est ce qu'on voit, on n'a pas pu choisir ces images-là dans l'exposition, ça a été un des pères, à mon sens, de l'autoportrait en Afrique. Car il y a des autoportraits de Souris Enlée dès les années 60, soit avant Samuel Fosso, et avant toute une génération d'artistes qui ont suivi. Parce que c'était plutôt un bel homme, un athlète, un coureur cycliste, un judoka. Donc il montrait ses biceps et il faisait une représentation de lui-même en photo. Et donc moi, c'était en faisant mon livre sur les musiques modernes du Burkina Faso que je suis tombé sur lui, sur les pochettes de disques qu'il avait pu faire. Et tout à coup, j'ai ouvert la porte du studio et littéralement, il y avait des dizaines de milliers de négatifs qui étaient là à prendre la poussière, les bêtes. Puis la première fois que j'ai rencontré, il brûlait des négatifs devant son carré, là, devant son studio, à côté du marché, parce qu'il m'a dit « Oh, ça m'encombre, c'est des vieux clichés ». Alors, bon, j'en ai récupéré un certain nombre, il y en a près de 300 000. Mais j'imagine qu'il y en a à peu près autant qui ont disparu. Parce qu'il faut se dire que ces gens-là, et c'est la même chose pour Sidy Bé, pour Keïta, pour Kassé, pour l'ensemble, enfin la plupart des photographes africains, ils avaient une activité commerciale. Et tous les jours, il fallait rentrer l'argent, il fallait faire des poses à 100 francs, 100 francs. Et c'était 10 à 20 pellicules par jour. Et au final, mis bout à bout sur une année, sur des années, vous photographiez au final la population d'une ville entière. Et donc c'était une œuvre, voilà, j'ai pas encore fini d'explorer, mais il y a à mon sens des choses intéressantes là-dedans.
Et en effet, donc on a un tout petit extrait, évidemment par rapport à la somme que vous mentionnez, qui est donc exposée au FRAC. Alors c'est pas la seule pièce étonnante, hein, l'exposition Folk Art, elle recèle de pièces étonnantes, et donc évidemment les dessins d'Ablaye Tiosane en sont la bombe, comme l'a qualifié Guy Lenoir de Romuald Azoumet également, ou bien les masques Guélédé revisités de Kifoli Dessous. Et donc, il y a encore une autre installation, un autre aspect de l'exposition qui peut étonner, je crois, ce sont ces pochettes de disques voilà, qui sont exposées du plafond au sol.
Oui.
Oui, en fait. Et qui font écho, il me semble, à la compilation qui est vendue dans le livre, qui est très agréable à écouter. Je ne sais pas si vous voulez nous en dire quelque chose.
Voilà, je ne voudrais pas trop parler. Entre... Hein, parce que... on n'aura pas Amadou, on n'aura pas Omar tous les jours, donc
non,
moi je suis
en,
d'ici.
En quelques
donc
mots, oui, vous êtes d'ici, mais comme ça fait partie du catalogue, on va leur redonner la parole après. Mais je crois que ce serait important d'entendre parler.
Florent,
de
la musique, c'est pas mal encore. T'aimes le
plus. Non, attends,
je sais qu'il faudrait que je reste juste dans le monde musical, ce serait plus attends, simple. Mais...
On est tous d'accord qu'en matière de recherche musicale, c'est super, donc c'est à toi de.
Non, mais c'est vrai qu'on a eu l'opportunité, je pense, je vais pas dire c'est une première de mettre un CD avec un livre, loin s'en faut, mais en tous les cas, d'avoir une compilation de musique africaine qui puise dans des racines, il y a des choses du Mali, des choses de Guinée, avec cette notion, justement, c'était un des points de départ de l'exposition, ce dont on parlait avec Claire en tout début, cette idée de folklore modernisé qu'on a un peu tenté d'expliquer hier, mais qui était à l'origine cette modernisation du folklore, enfin de la tradition, des créations culturelles par Sékou Touré. Donc le CD est illustré par des morceaux traditionnels qui sont ainsi devenus modernes. Et c'est une manière de... En fait, pour moi, toutes les créations, qu'elles soient photographiques, plastiques ou autres, en Afrique, passent largement par le biais musical. Et c'est au moment de l'émergence des grands orchestres, des grands noms de la musique africaine au cours des années 60, que ce soit au Mali, au Sénégal et dans bien d'autres pays, que se sont également constituées des communautés d'artistes. Certains illustraient les pochettes de disques au Nigeria, au Ghana notamment, il y avait très bons illustrateurs. Je pense aussi à des pochettes du Rai Band qui sont montrées au FRAC. C'était les étudiants de l'école des Beaux-Arts de Bamako en 74-75 qui illustraient ces pochettes. C'est des dessins absolument magnifiques, un peu oubliés en fait, mais il nous semblait bon d'exposer. En tous les cas, c'est très subjectif. Hein. Il y a 80 pochettes de disques qui sont présentées. Il y a certaines pochettes dont les morceaux sont sur cette petite compilation qui est offerte avec le catalogue. Mais ça, voilà, il nous semblait nécessaire de montrer cet art populaire au sens noble du terme. Car la musique a accompagné les artistes et les artistes ont accompagné les musiciens en Afrique. Enfin, je sais qu'Amadou a une... Et Omar aussi ont des passions particulières aussi pour la musique, très précises. Donc...
Non, il y a des morceaux même de Bazoumana Sissoko qui m'inspirent beaucoup, parce que Bazoumana, c'est quelqu'un qui manie très bien les proverbes. Il a une sagesse bambara très très immense, donc il manie très bien les proverbes. Donc ces morceaux m'inspirent. Il a fallu, une fois même, j'ai travaillé sur une de ses chansons dont il dit que dans une cour de braves guerriers, si une vache s'échappe de là-bas, ça veut dire que cette vache, c'est pas la langue, au moins c'est les propos des éleveurs qui peuvent l'arrêter. C'est seulement les balles qui peuvent l'arrêter, c'est de rien. Donc, ça veut dire une rébellion dans la cour des braves, des guerriers, donc, sauf... La férocité de guerriers seulement peut arrêter ça, sinon il n'y a pas d'autre qui peut arrêter ça. C'est des propos comme ça que Bazoumana Sissoko utilisait beaucoup dans des chansons, ce qui fait qu'on l'a nommé le lion. Et il a même un morceau, à chaque fois qu'on attend à la radio au Mali, ça veut dire qu'il y a un coup d'État, mais il y a un malheur qui national. Bazoumana, c'est là, a eu cette notoriété.
Et Omar Victor Diop, est-ce que vous aussi, vous êtes d'accord avec effectivement ce que dit Florent Mazzolini, qui est aussi le propos de son texte, hein, de cette musique qui a toujours accompagné le travail plastique des artistes. Vous aussi, vous vous sentez que, par exemple, certaines des musiques qui figurent dans ce panorama, elles vous évoquent aussi des choses, elles vous ont accompagné
Enfin, d'une manière générale, il y a une relation de complémentarité entre les arts visuels et la musique, parce qu'il y a eu des commandes des musiciens pour illustrer des pochettes, et il y a eu des artistes aussi qui ont été inspirés par des chansons ou des proverbes mis en chanson. Et puis bon, pour les plus jeunes qui sont nés beaucoup plus tard que ça... ceux qui sont nés en 80, par exemple, on a quand même grandi avec les vinyles de papa et donc toutes ces pochettes fabuleuses de Baobab, du Bembe à Jazz National, de Sori Kandia Kouyaté, et aussi de Boney M et de Michael Jackson. Et donc en fait, effectivement, il y a une relation, c'est un cercle vertueux, quoi. Je pense que les artistes visuels et les musiciens se complètent. Et pas seulement en Afrique, quand on regarde, je sais que je parle beaucoup d'eux, mais quand on regarde Grace Jones et Jean-Paul Goude, c'est exactement la même chose. Il a fallu qu'il y ait des albums de Grace Jones pour qu'il y ait ces pochettes qui sont maintenant dans les musées. Et c'est peut-être plus vivace dans des pays comme le Congo, effectivement, la Guinée, le Mali, le Sénégal, mais c'est un mécanisme universel, hein.
Je voudrais aussi poser une question à la commissaire, qui donc a, pas seule, mais a fait le choix de réunir tous ces artistes. Je crois que la remarque vous a été faite à plusieurs reprises. Pourquoi cette diversité, voire pourquoi cette hétérogénéité des artistes de générations différentes ? Alors, j'ai souligné quelques convergences. Là, je crois que on comprend bien comment la musique trouve aussi sa place dans cette création plastique. Mais bon, il y a un certain nombre d'autres artistes qui peut-être n'avaient pas été réunis sous cette forme auparavant. Est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer quel a été votre choix, le vôtre, et celui évidemment d'André Magnin et de Florent Mazzolini qui ont contribué avec vous à ce catalogue ?
Effectivement, ouais, c'est le début de l'histoire de ce projet. Mais en fait, ça fait à peu près 2 ans que je réfléchis à ce projet. Je commence un peu plus à regarder les artistes africains dans les foires, dans les expositions, à en parler évidemment. Je me suis très vite rapprochée d'André Magnin, qui est essentiel dans le démarrage du projet et dans l'accompagnement de ce projet, parce que 6 des 10 artistes font partie de sa galerie et il le représente. C'est vraiment quelqu'un qui a permis à énormément d'artistes d'émerger véritablement, hein, je pense, depuis 30 ans. Et sa terre d'élection, c'est l'Afrique. Donc, il est vraiment un terrain de connaissance et son expertise était essentielle. Et puis, j'ai rencontré aussi Florent Mazzolini, qui m'a permis effectivement de découvrir aussi Sori Sanlé, Ablaï Tiosan. Et puis, il y a aussi eu ce contact avec la Fondation Zinsou au Bénin, où je suis allée l'année dernière, qui m'a permis là aussi d'entrer en contact avec Kifoli Dossou, que j'ai rencontré, Romuald Azoumé, que je connaissais très mal et que j'ai beaucoup mieux appris à connaître là-bas. Gérard Kenom aussi, donc il y a 3 artistes béninois dans l'exposition. Puis voilà, j'ai commencer par regarder beaucoup d'artistes, puis finir par m'arrêter à une dizaine d'artistes qui a composé effectivement une hétérogénéité. Mais ça, j'y suis très, très attachée. Je ne suis pas du tout quelqu'un de dogmatique. Je cherche pas, j'ai pas un programme en tête. Je ne suis pas obsédée obsédée sur des questions esthétiques. Je pense que la variété demeure dans l'art, que la curiosité est un des meilleurs facteurs pour avancer pour soi-même. Et donc, je ne supporte pas moi-même les commissaires qui instrumentalisent les œuvres, qui plaquent un discours, enfin, qui ont un discours et qui finissent par plaquer des œuvres derrière. Donc, je suis d'abord partie des œuvres. Et c'est en regardant toute cette richesse, cette créativité qui racontait des choses très très différentes que j'ai cherché à créer quand même une histoire qui est le projet de cette exposition où j'ai associé vraiment autant Florent Mazzolini, André Magnin, la Fondation Zinsou et à trouver ce fil conducteur qui était finalement une notion repère assez universelle. Je crois que j'aurais très bien pu questionner le folk dans d'autres civilisations. Elle n'est pas du tout propre à l'Afrique. On pourrait peut-être un jour faire un opus français parce que je pense que ça nous ferait du bien aussi. de nous renvoyer ses propres questions. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En tout cas, oui, pour revenir peut-être au catalogue, cette diversité, elle est aussi visible dans le sommaire, c'est-à-dire que la structure du catalogue, vous avez trois textes, trois contributions de André Magnin, Florent Mazzolini et moi-même. C'est des trois textes qui sont très, très complémentaires, je trouve, parce qu'on raconte des choses différentes. Et pour autant, je suis entièrement d'accord avec André Magnin, avec ce que raconte Florent Mazzolini. On a des approches différentes, je pense, malgré tout. Et sans être complètement contradictoire, on a des regards qui sont des points de vue qu'on a pu voir s'exprimer aussi hier au colloque. Et puis on a quatre entretiens, donc avec tous conduits par Florent Mazzolini, avec Gérard Kenhomme, Romuald Azoumé, Amadou Sanogo et Omar Victor Diop. Et puis on a un CD, donc voilà, c'est un catalogue qui veut aussi restituer toute la richesse de ce projet, les échanges qu'on a pu avoir les uns les autres.
On vous laisse découvrir le catalogue.
Pas de question
alors.
Pour le chien
de Florent. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci.